Je donne tout de suite la parole à Marielle Massé, qui est directrice de recherche au CNRS, qui donc va nous parler de son travail en cours, je crois, sur forme littéraire et forme de vie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À toi, Marielle.
Je suis très, très contente de prendre la parole ici. Je vous suis très reconnaissante de me la donner, d'autant que... pour une littéraire qui venait d'une formation qu'on ne pouvait imaginer plus classique et plus mainstream, j'ai mis quelques années à me sentir à ma place dans le HESS et aujourd'hui, pour rien au monde, je ne changerai d'ancrage. Et j'espère que ça va être aussi un des objets de nos discussions, enfin, ce que peut faire un littéraire d'abord formé par cette culture-là, de pertinent et de réel dans une école de sciences sociales. Évidemment, la littérature est un objet central pour beaucoup de disciplines. Nous y reconnaissons une activité sociale, un terrain d'expérimentation morale, un lieu de configuration du temps, une ressource cognitive. Et ici, en fait, à l'école, nous avons tous l'objet littéraire en partage. Et on doit même dire que ce sont les sciences sociales qui, depuis leur culture et depuis leurs questions, ont redonné à la littérature, dans les dernières décennies, la place qui lui revenait dans la compréhension de la vie humaine et de la vie sociale, notamment dans les enjeux temporels, axiologiques, éthiques de cette vie. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai éprouvé. Ce sont les sciences sociales qui ont restitué au littéraire la portée et la signification principale de leur objet, en mobilisant vraiment et concrètement la littérature comme un lieu de ressaisie de l'expérience. Pour les spécialistes de littérature, cependant, ça s'accompagne de quelque chose de douloureux, d'une difficulté douloureuse à hériter du moment poétique de leur discipline et à en hériter vraiment, à hériter de la tradition ouverte ici à l'école par Barthes, Louis Marin, Genette, Todorov, tous les beaux noms qui ont été cités tout à l'heure. Difficulté à hériter du moment poétique, c'est-à-dire à maintenir ou plutôt à réinventer les conditions d'une attention active aux formes, d'une saisie de la littérature comme pratique de langage. Que la littérature soit un art de la parole et, comme disait l'autre, le langage au meilleur de sa forme, c'est une évidence, mais c'est une évidence dont il est difficile de faire quelque chose d'important pour les sciences sociales. Comme s'il y avait une contradiction entre le souci de la forme et l'intérêt désormais premier et heureusement premier pour la force avec laquelle la littérature touche au monde, dit le monde. En sorte qu'autour de cet objet que nous partageons, chacun est en pratique souvent renvoyé à ses affaires, et un peu trop renvoyé à ses affaires, entre souci des textes d'un côté et conscience de la capacité de la littérature à dire quelque chose de l'histoire ou du monde commun de l'autre. Et de part et d'autre, il semble difficile d'échapper à ce partage qui est aussi souvent une certaine indifférence. Pourtant, c'est précisément dans et par les formes que les œuvres prennent leur partie sur le monde. La qualification du social chez Proust ou chez Balzac, pour ne prendre qu'un exemple énorme, n'est pas dissociable de leur engagement dans le récit, ou plutôt dans un récit très spécifique, où la vérité n'est pas d'essence, mais de surprise et de durée. Et ici, les formes ne sont pas une dimension des œuvres, une dimension parmi d'autres, dont on pourrait remettre l'étude à un plus tard. Ce sont le roman proustien ou le roman balzacien, des sociologies d'un point de vue narratif, comme l'anthropologie de Rousseau est une anthropologie d'un point de vue narratif, comme le propose Martin Rueff, où les formes de temporalisation sont les catégories mêmes de l'expérience et de la connaissance. En fait, il faut beaucoup d'efforts pour cesser de renvoyer dos à dos sur ces sujets nos cultures disciplinaires et j'ai l'impression que cet effort, nous le faisons, ici, spécifiquement, et chacun depuis le cœur de nos disciplines. L'une des façons dont nous pouvons cesser, effectivement, de renvoyer dos à dos sur ces sujets nos cultures peut tenir à une conviction, la conviction qui, je crois, était explicitement celle que proposait Jean-Marie, qui était aussi sous-jacente à ce qui a été dit du récit par mes deux amis. Elle tient à la conviction que les formes littéraires sont de fait et en tant que telles, c'est-à-dire en tant que formes, des partis pris sur la réalité et sur ce que la littérature peut en dire. Ici, les formes ne désignent pas le terrain où la littérature se séparerait, s'offrirait à une appréciation esthète ou décrochée de ses enjeux éthiques ou historiques, mais au contraire le terrain où elle prend le réel en responsabilité. Une configuration narrative, une invention pronominale, un dispositif figural, ce sont autant de tentatives pour phraser les formes de la pratique. Pour phraser non pas exactement la vie, mais ses formes. Manière de se tenir dans le temps, rythme, mode relationnel, régime d'expérience, façon d'être, manière de paraître, bref, tout le formel de l'existence que les œuvres déploient comme une vaste arène de sens, de valeurs et surtout de difficultés. Et ici, la littérature n'est pas, pour la théorie sociale ou la philosophie morale par exemple, un réservoir de cas dans lequel on serait surtout invité à prélever des échantillons de situations. Non, c'est un codex de formes, un codex de nuances, comme c'était la définition que Barthes donnait de la littérature, un codex de nuances, un codex de configuration de l'expérience, donc qui sont en tant que telles, je le répète, en tant que formes, des partis pris et des discours sur le comment de la vie. L'intérêt pour les formes littéraires participe alors, en tout cas, c'est ma conviction, d'une disposition plus vaste, celle qui consiste à penser le champ du comment, à considérer ce qu'avec Michel de Certeau, on peut appeler la formalité des pratiques. Et je dois la conscience de l'importance de cette idée de la formalité des pratiques au Grill, en fait, qui a consacré un collectif à ce texte de Michel de Certeau. La formalité des pratiques, c'est une expression qui intervient deux fois chez Certeau. Une fois dans l'écriture de l'histoire pour expliquer, pour tenter de penser le rapport entre, en gros, les pratiques religieuses et les pensées ou les dogmes ou les textes. Et puis c'est une expression qui réintervient et de façon cette fois très déliée et très ouverte au début de l'invention du quotidien pour décrire justement les manières de faire, les façons d'être, etc. C'est-à-dire l'objet même de la science sociale. Donc l'attention aux formes littéraires, à mes yeux, ça fait partie de cette disposition plus vaste et qui est, je crois, définitoire de l'objet même des sciences sociales, qui est de penser le champ du comment, à voir et à réfléchir ce qui s'y engage. Et de ce point de vue, la littérature, l'intérêt pour la littérature, devient une lutte contre toutes les façons, y compris savantes, d'être inattentif au comment et à tout ce qui peut se jouer dans les formes même du vivre. Et c'est alors souvent, et là je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Marie, c'est alors souvent lorsqu'elles prennent le parti des formes que les études littéraires se portent peut-être le mieux à la hauteur de l'exigence des sciences sociales. Vous avez compris que moi j'essaye de savoir ce que je peux apporter vraiment de pertinent, en fait, pour une interrogation en sciences sociales. Et c'est un certain tourment dans ma réflexion. Donc c'est alors lorsqu'elles prennent le parti des formes, peut-être, que les études littéraires se portent le mieux à la hauteur de l'exigence des sciences sociales, alors même que cette question des formes est réputée reconduire la littérature à des affaires d'esthétisation ou de prise de distance coupable à l'égard du monde commun. Mais en matière esthétique, c'est le formalisme qui est un réalisme. Et je songe à ce que Bourdieu a retenu du perspectivisme du récit moderniste, quand il considérait que justement c'était dans un affûtement, dans l'affûtage, ou l'affûtement, je ne sais pas le dire, des formes narratives que le récit pouvait servir la théorie sociale. Et je pense aussi à ce que Marshall Salins dit de voir à Catherine Gallagher une attention non comparative aux spécificités culturelles. Et la façon dont Gallagher a lu les textes lui apparaît comme un engagement de méthode intéressant. Alors prendre le parti des formes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ce peut être, comme le font mes collègues, affûter la compréhension de ce que c'est un récit, mais alors de tout ce que peut être un récit, comme l'a dit Philippe. Il y a beaucoup de types de récits. Pas seulement en soutenant, même si c'est déjà beaucoup, que la vie ou les identités sont narratives, mais surtout en précisant, c'est-à-dire en pluralisant, le concept même de récit, en le comprenant dans la conflictualité de ses orientations et des idées de vie que ces orientations engagent. Il peut être intéressant, par exemple, de mesurer la divergence entre la pensée du récit élaborée par Ricoeur, adossée, comme vous le savez, aux valeurs de l'attestation, de la mémoire et de la promesse, c'est-à-dire de la prise de sens dans la concordance et la synthèse. Intéressant donc de mesurer la divergence entre cette pensée, disons, réparatrice presque, liée aussi à la croyance, du récit chez Ricoeur, et puis de l'autre côté, les narratologies de l'intrigue ou de la discordance qui se sont, par exemple, déployées dans l'école de Tel Aviv. D'un côté, le récit est pensé comme une synthèse d'hétérogène, une mise en ordre, en fait, de la réalité. De l'autre, le récit est pensé, avec des valeurs anthropologiques et morales presque opposées, comme une formalisation de l'incertitude et comme le lieu d'un affrontement à la surprise, le lieu de l'expérience vive de la négativité même du temps. En fait, ce sont des anthropologies sous-jacentes parfaitement antinomiques. Et il ne s'agira alors pas seulement en retour pour les sciences sociales de mobiliser l'idée de récit, mais aussi de prendre la mesure de ces sens divergents du récit, de ces valeurs divergentes, où le récit n'est pas seulement un outil, mais un problème. Et on pourrait dire la même chose des idées de style, de fiction, d'éthos, de scène, de rôle, de rythme, qui ne peuvent pas être comprises d'emblée comme des outils, mais qui se révèlent être des catégories conflictuelles, des terrains de débat, de décision, sur le sens et les valeurs forcément plurielles et surprenantes qui s'engagent dans les formes. Et j'ai l'impression qu'un spécialiste de littérature, ça peut être un spécialiste de ce type de travail-là. C'est par exemple mû par une sensibilité à tout ce que peuvent engager les formes temporelles que Barthes a posé la question inattendue de son premier cours au Collège de France, « Comment vivre ensemble ?». Il y répondait de façon tout aussi inattendue par une réflexion morphologique, poétique même, sur les rythmes, appuyée notamment sur les réflexions de Benveniste sur la catégorie du rythmos, et afin de tourner le regard vers les façons dont les sujets accordent ou désaccordent leur manière d'habiter le temps. Cela n'avait rien de clos sur des effets textuels, c'était une réflexion sur les manières sociales de fluer et sur ce qu'il entre dans nos vies de lutte rythmique, qui considérait que la réflexion métrique ou poétique avait été un des lieux de précision de cette catégorie du rythme. Et je crois que Jean-Claude Schmitt a trouvé beaucoup de pertinence à cette réflexion formelle de Barthes pour son histoire des rythmes sociaux. Forme littéraire, forme de vie, donc cela peut regarder des phénomènes beaucoup plus ténus. J'en prends un exemple avec le grand récit de Pérec, Les choses, de 1965. Pérec a déployé toute une syntaxe du bonheur dans les choses, de ce qu'Emmanuel Ecotch a appelé le bonheur dans les choses. Et Pérec en a déployé la syntaxe parce que c'est dans une variation des modes et des temps verbaux autour de la catégorie du conditionnel que Pérec a exploré les façons contradictoires dont ces héros parviennent à se rapporter toujours plus imaginairement aux conditions pratiques de leur bonheur. Dans ce récit, vous vous en souvenez sans doute, Pérec s'appuie sur une ressource spécifique de la langue française, où le conditionnel est à la fois un temps, le conditionnel c'est un temps, le futur du passé, et un mode, c'est-à-dire non plus un temps mais une façon de se rapporter au temps, une modélisation du réel, une entrée sur le terrain axiologique du possible en fait. Pérec donc s'appuie sur cette ressource et il la rejoue, avançant dans une exploration des états imaginaires, étendant sur la destinée de ces personnages toutes les formes de la possibilité, depuis le désir et la traction de soi-même vers un futur qui devra forcément arriver, le futur du passé, jusqu'au regret et à l'épreuve finale que font les deux héros, Jérôme et Sylvie, de la cruauté des conditions matérielles faites à la vie. C'est, comme le dit Pérec, une tragédie tranquille, très douce, dont les héros finissent en bout de course au terme d'une trajectoire ambiguë. Ce n'est ni une critique de l'aliénation, ni un appel à l'émancipation, ni même un parcours des appropriations ou des désappropriations. C'est une histoire plus triste, plus simple, plus opaque, plus dispersée, plus plurielle. Et ce sont les variations syntaxiques qui disent cela, en disant justement le pluriel des valeurs et des raisons qui auront animé cette histoire. Un exemple encore, et je choisis cette fois de parler de poésie, parce que la poésie est peu présente chez nous. La poésie, c'est ce continent non romanesque et a fortiori non réaliste qui semble inconvenant dans nos questionnements de sciences sociales. Donc je vais essayer de prendre cet exemple. L'exemple, en l'occurrence, de l'approfondissement, dans certains textes poétiques, d'une scène pronominale qui, pour la langue, est la scène même de la subjectivation. Certains poèmes modernes affûtent précisément une grammaire du sujet qui mériterait de croiser la réflexion des grandes philosophies de la subjectivation, la réflexion sur ce soi qui n'est pas un moi, mais un rapport ou un usage pour Foucault ou pour Adot, ou encore, et de façon déjà évidemment très différente, la réflexion sur ce soi temporalisé adossée au souvenir et à la promesse qui apparaît chez Ricoeur. Quel texte poétique alors ? Mais par exemple, la façon dont le sujet pronominal est construit chez Baudelaire, elle est passionnante. Le sujet pronominal chez Baudelaire était tout en effet de seuil entre le moi et le non-moi, en mélange de protection jalouse et de pulvérisation brusque des frontières du moi, sujet du côtoiement, c'est le mot de Claude Lefort pour définir la démocratie, sujet du côtoiement, sujet d'un appétit de contact indissociable des douleurs du contact, qui mériterait de voisiner avec les sociologies des formes modernes de l'interaction lorsqu'elles se penchent justement sur ça, sur les enjeux du frôlement, sur les enjeux morphologiques et axiologiques du frôlement, chez Plessner, chez Simmel, chez Canetti, chez Goffman, évidemment. Et ce qui est intéressant dans le fait de revenir à la construction d'un sujet chez Baudelaire, ce serait de voir que Baudelaire n'a pas seulement entreaperçu les paradoxes de la distinction et de la terreur moderne du frôlement, il en a aussi projeté la forme dans un univers de valeurs, endossant, prenant sur lui, étudiant, comme il le dit, dans son propre cœur, l'impatience de l'individu moderne, son irritabilité, sa hâte, son intolérance à la ressemblance comme aux petites différences, c'est-à-dire son sens à la fois affûté et très fragile des frontières relationnelles. Donc il me semble qu'il y a dans un texte poétique, là encore, une façon d'affûter cette morphologie du côtoiement qui définit en partie chez Lefort la situation démocratique. Valérie, à son tour, déposait son effort dans la syntaxe du réfléchi, des constructions réfléchies, où se disent les opérations d'un sujet sur lui-même, pour que s'y répartissent passivité et activité, vous connaissez le réfléchi, se regarder, s'habiller, se faire croire, se laisser couler. Vous voyez bien que la frontière entre moi et moi ne passe pas au même endroit, ni avec les mêmes enjeux dans tous ces cas-là. Et c'était chez Valérie un objet de travail sur la construction du sujet à travers une pluralisation de ces divisions intérieures entre soi et soi. Et on pourrait aussi penser à Michaud, qui inscrivait les paradoxes de toute individuation dans des impératifs et des divisions pronominales surprenantes. Ne laisse pas toi te gagner, va si loin en toi-même que ton style ne puisse plus suivre, etc. Et c'est d'ailleurs à la poésie de Michaud que Claude Lefort doit le titre du livre, où il honorait la modernité politique de la pensée de Merleau-Ponty. Autant d'exemples donc de la façon dont des formes de phrases sont porteuses de modes de subjectivation, et pas seulement porteuses, mais instituantes. Elles instituent des idées de sujet, elles élargissent la grammaire du sujet à coups de trouvailles syntaxiques, dans ce que Valérie appelait des manœuvres de langage qui pourraient entrer de plein droit dans l'histoire des formes de la subjectivation. Je m'achemine doucement vers ma conclusion, il me reste 3 minutes. Pour ma part, si je travaille sur la littérature, c'est parce que de la vie, individuelle ou sociale, je veux comprendre justement cela, que quelque chose en elle tient à ses formes. Et je conçois le travail sur la littérature comme un vouloir voir cela, vouloir être attentif, obstinément attentif à cela. Et je dis obstinément parce que, compris ainsi, l'engagement de la littérature dans des formes et de ses lecteurs à être vigilants quant à ces questions apparaît avant tout comme un acharnement à phraser et à qualifier. Or, la tâche même de qualifier, et je le dis volontairement avec les mots de la sociologie pragmatique, la tâche même de qualifier est peut-être précisément celle que la littérature partage avec les sciences sociales. On ne partage pas seulement des objets, on partage aussi un effort et même un tourment qui est celui de bien dire, de bien qualifier, de savoir ce qu'on fait quand on qualifie. Que la qualification soit un enjeu brûlant pour les sciences sociales, il suffit, pour s'en convaincre, de constater que toutes les grandes entreprises en sont marquées et que souvent elles en sont marquées précisément en leur point d'incertitude, qui est aussi leur point de grandeur. En 1986, Bourdieu intitulait « Nécessité », le verbe « nécessité er », l'éloge d'une certaine façon de comprendre la réalité et justement de la qualifier. Il s'agit pour un sociologue, expliquait Bourdieu, de nécessiter le réel, c'est-à-dire de le rendre nécessaire, d'en comprendre les raisons, de lui faire face, tel quel, comme ça, de l'affronter, sans pour autant l'aimer ni le justifier. Or, cette intention où il voyait le modèle de l'opération sociologique même, il ne la rapportait pas à un savant, mais à un poète, Francis Ponge, Nécessité, c'est un très beau texte de Bourdieu sur Ponge. et à l'attitude à la fois linguistique, cognitive et éthique instituée par le parti pris des choses de Ponge. Le texte de Bourdieu est très étonnant, je vous encourage à aller le lire, il est dans l'Erne, le cahier de l'Erne Ponge, très étonnant par son engagement poétique, par son engagement pour la poésie, notamment celle de Ponge, et par son propre engagement dans une langue poétique, très consciente d'elle-même et très troublante sous cette plume. Je crois qu'on n'est pas obligé d'être bourdieusien, ni même d'être capable de savoir si on l'est, pour s'intéresser et être sensible à la tâche ici désignée et à la, façon qu'a Bourdieu de l'affronter. Pour ma part, je crois qu'on peut honorer dans ce texte la prise en charge explicite, consciente et coléreuse du tourment de la qualification. Nécessité, c'est le geste de pensée et d'écriture par lequel Bourdieu cherche à définir l'attitude juste, l'attitude de justesse et de justice à l'égard de la réalité sociale, attitude qui serait réaliste par justesse et par justice, précisément. Pour lui, elle consiste à vouloir regarder les choses en face, c'est-à-dire, dans sa pensée si spécifique de la pratique, et même si je ne le dis pas bien, à affronter leurs composantes de déterminisme et à préparer par cela, par ce vouloir voir cela, une intention critique. Regarder les choses en face, les voir comme elles sont, les voir dans leur comment, dans leur comme ça, c'est-à-dire les faire comparaître. Bourdieu reconnaît cette force de comparution dans la poésie de Ponge. Je passe très vite, notamment dans la dimension génétique de la poésie de Ponge, lorsque la phrase de Ponge égale toute chose à sa formation dans le monde et dans la langue. Et il conclut « C'est alors qu'enseigner l'art de résister aux paroles devient utile. Apprendre à chacun l'art de ne dire que ce qu'il veut dire, l'art de fonder sa propre rhétorique, est une œuvre de salut public. » Et là, c'est Bourdieu qui cite Ponge. Ne dire que ce que l'on veut dire, surveiller ses phrases, c'est-à-dire aussi ses modes de qualification. Bourdieu précisait ailleurs, avec une sorte d'aplomb qui est troublant, « Mon but est de contribuer à empêcher que l'on puisse dire n'importe quoi sur le monde social. » Schoenberg disait un jour qu'il composait pour que les gens ne puissent plus écrire de la musique. « J'écris pour que les gens, et d'abord ceux qui ont la parole, les porte-paroles, ne puissent plus produire à propos du monde social du bruit qui a les apparences de la musique. » Alors moi j'aime chez Bourdieu cet orgueil de la qualification que nourrit une colère contre toutes les formes de l'inattention, mais je crois qu'on peut évidemment le retourner contre lui, on l'a et on doit le retourner contre lui, et beaucoup justement en sociologie l'ont en partie retourné contre lui précisément pour avancer dans la qualification, pour la faire gagner en réalisme, en pluralité, en conscience de l'incertitude des valeurs et des raisons de vivre. Je finis en une phrase. Je crois justement que la qualification de la vie, c'est-à-dire cette fameuse prise en charge du comment, qui me paraît être le terrain commun entre nos textes, la prise en charge du comment et des valeurs toujours complexes qui s'y engagent, forme par forme, la qualification est sans fin et elle doit l'être. C'est un effort infini dont on ne saurait jamais se tenir pour quitte. Et si les études littéraires, si les études littéraires même les plus ont quelque chose à dire aux sciences sociales, je crois que c'est en tant qu'elles sont le lieu de la conscience de ce tourment, le lieu d'une vigilance obstinée quant aux formes et d'une attention têtue à ce que Ponge, encore lui, appelait la rage de l'expression et que Pasolini, du même mot, appelait la rage poétique, la rabbia poetica. Et je rappelle juste ce que j'ai dit déjà hier, mais bon, c'est pas grave, il faut répéter ce dont on est convaincu. Nado, présentant Barthes pour son entrée dans l'écriture en 1947, l'avait présenté avec simplicité comme un enragé du langage. Et Le Goff, rendant hommage à Barthes, avait dit c'était à la fois dans ses responsabilités un poète, un juste et un travailleur. Merci.
Comme nous avons pris le parti difficile de grouper les questions, il faut s'y tenir. Donc je passe directement la parole à André Guinter qui va nous parler de Louis Marin.
Merci beaucoup. Bonjour. Alors, dans le cadre d'un anniversaire, il a paru évidemment tout à fait logique d'évoquer la pensée et le travail de Louis Marin. Et je dois dire que pour moi, qui, comme Giovanni Carreri, Pierre-Antoine Fabre, Georges Didier Burman et beaucoup d'autres, est compté parmi ses élèves. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'intervenir sur Louis Marin dans une occasion officielle. Et je pense que si je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, c'est parce qu'en fait, c'est très intimidant. Et qu'aujourd'hui encore, j'aborde cette tâche avec un sentiment étrange de ne pas être à la hauteur de quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Et je crois que ça fait partie de ces cérémonies d'anniversaire que de pouvoir évoquer aussi cette relation du maître à l'élève qui nous constitue tous, et quelque chose qui est, si vous voulez, voilà, ma difficulté, elle n'est pas celle d'un manque de familiarité, ça serait plutôt celle d'un excès de familiarité, d'une pensée qui m'est devenue si intime et qui a tellement irrigué ma propre façon aujourd'hui de travailler, qu'il est compliqué pour moi de m'en détacher, de l'objectiver, de la transformer en objet externe. En fait, je n'ai pas envie de m'en séparer. Et puis, l'autre difficulté, précisément, c'est que, comme c'est une pensée qui m'a nourri, que j'ai fait mienne, que je me suis évidemment totalement appropriée, il est tout à fait possible qu'en tentant maladroitement de vous parler de Louis Marin, je vous parle aussi, et peut-être un peu plus de moi que de Louis, c'est un des risques de quelque chose qui est une au final 10 ans, 15 ans plus tard, une étrange fusion que je ressens. Donc je vous prie de me pardonner ma difficulté, et je ne le ferai plus, hein, bien sûr, sauf pour le 50e anniversaire. Alors, il y a bien des façons, c'est impossible de parler de Louis Marin, surtout quand on est devant un tel auditoire, avec beaucoup de gens qui l'ont connu, et chacun a sa manière d'aborder cette œuvre. La question qui m'a été posée était relative au rapport de Marin à l'art et aux images. Donc, j'aurais pu vous présenter un portrait de Louis Marin en historien d'art. Mais au fond, je me suis dit qu'une question peut-être plus utile et qui me paraît plus importante aujourd'hui, parce que c'est une question que me posent effectivement les étudiants lorsque nous travaillons aujourd'hui dans un espace qui a été en partie modelé par les visual studies, les études visuelles. Je leur conserve volontairement, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, l'expression anglaise qui les caractérise. Il s'avère que Louis Marin, disparu en 1992, s'est absenté du champ intellectuel à peu près au moment où les visual studies, à l'américaine surtout, ont pris leur essor et se sont imposés depuis assez largement comme la manière d'écrire et de comprendre nos usages des images, de l'art et au-delà, avec notamment la question probablement régulatrice des visual studies, des études visuelles, qui est celle des pouvoirs ou des effets ou de la performance des images. Bon, alors, tous ces termes, aucun n'est anodin. Et le paradoxe qu'on peut ressentir aujourd'hui face à cet univers, c'est de ne pas voir comment la pensée de Marin a pu s'articuler avec avec cet univers. Alors en réalité, donc on va prendre comme point de départ, si vous voulez, je vais faire un petit peu de philologie, pour poser une balise du côté des Visual Studies, hein, je prends l'ouvrage fondateur, célèbre, de David Friedberg, « Le pouvoir des images », hein, dont le titre dit l'essentiel, et le déplacement fondateur de Friedberg, hein, qui à bien des égards ouvre effectivement un nouveau champ, en sortant en particulier l'histoire de l'art du cadre de celui qui était le rapport au texte, ou plutôt au discours, et donc le principe d'analyse fondateur de l'iconologie, donc où, en suivant grosso modo Panofsky, on allait chercher les textes mobilisés par les images. Et donc Friedberg propose un déplacement assez radical, hein, qui est de dire on va au contraire regarder de l'autre côté des images, du côté de leurs effets, du côté de ce que les images produisent, et donc du côté de la response, de la réception des destinataires. Et donc Friedberg, qui est un spécialiste de l'iconoclasme, dresse dans Le pouvoir des images une longue liste d'exemples d'effets physiques, pratiquement, produits par, alors la plupart du temps, des œuvres d'art, en fait, hein, pas tellement des images ordinaires. Et voilà, donc il m'arrive souvent, aujourd'hui, d'être confronté à des étudiants qui sont familiers de cette pensée et de ses suites, et qui cherchent à comprendre comment le travail de Marin peut s'inscrire dans cette généalogie. Alors, ce qui est très intéressant, et au fond, mais c'est passé un peu inaperçu, c'est que dans le dernier ouvrage préparé par Louis Marin de son vivant, qui s'intitule donc « Des pouvoirs de l'image », et je vous rends attentif à la proximité des deux titres, mais évidemment, quand on est un lecteur de Louis Marin, on comprend tout de suite qu'il y a un problème, puisque en fait, ces titres sont construits en chiasme. Du côté de Friedberg, nous avons « Le pouvoir des images », et du côté de Marin, c'est l'inverse, c'est symétrique, hein, c'est des pouvoirs de l'image. Donc, la confrontation, elle a eu lieu. La confrontation de Louis Marin avec les Visual Studies a eu lieu, simplement le dialogue n'a pas pu se continuer. Et vous trouvez dans Des pouvoirs de l'image la première et seule note de l'introduction qui renvoie à David Friedberg et qui manifeste une opposition assez violente, à vrai dire, dans les termes académiques. Hein. Donc, c'est une violence cachée, mais une opposition très nette de Marin avec le système de pensée tel qu'il s'exprime chez Friedberg. Donc, si on essaye de comprendre la question du pouvoir des images telle que Marin la posait, puisque, en effet, cette question, on peut la considérer comme l'une des questions véritablement fondamentales de Marin, mais posée d'une manière extrêmement différente du repère essentiellement anthropologique qui était celui de Friedberg et qui est devenu progressivement ensuite celui de la plupart des travaux des Visual Studies. Pour essayer de rentrer simplement dans le court espace de temps qui nous est imparti et compte tenu de du caractère buissonnant et assez touffu de la pensée de Marin, je me suis dit que la façon peut-être la plus simple, c'était de repartir de l'intitulé de sa chaire, qui était sémantique des représentations. Et dans sémantique des représentations, il y a en fait déjà un grand nombre des partis pris qui ont été ceux de Marin et qui permettent donc de mieux comprendre son abord. Le premier point, le choix du terme sémantique pour caractériser sa recherche, était évidemment un choix qui n'avait rien d'un choix par défaut, mais au contraire un signal très, très fort pour indiquer... Alors, l'opposition sémiotique, sémantique telle que la comprenait Marin, elle peut être approchée par l'article d'Émile Benveniste, La forme et le sens dans le langage, dans Problème de linguistique générale. Et dans cet article, Benveniste définit le sémiotique comme, je cite, une propriété de la langue, alors que le sémantique résulte d'une activité du locuteur qui met en action la langue. Alors, je ne vais pas vous citer le passage de Détruire la peinture où cette opposition est détaillée. La façon peut-être la plus simple de comprendre aujourd'hui ce qui intéressait Marin dans cette opposition, c'est de comprendre la sémantique comme une super-sémiotique, mais une sémiotique de la langue en action. Et donc le terme qui est le plus proche aujourd'hui pour nous de cette compréhension-là de la langue en action, je dirais que c'est la pragmatique. Et que voilà, ce que Marin appelait au début des années 70 sémantique, au fond, et Benveniste, ça se rapprocherait plus dans ensuite le travail et l'expérience qu'il en mène, de la pragmatique, donc de quelque chose qui est fondamentalement un réseau de relations entre des opérateurs et des opérations. Alors, et là, le terme de représentation, évidemment, est aussi très intéressant parce que le terme de représentation est un terme que Marin va chercher du côté de la logique de Port-Royal, qui est son travail initial, le sujet de sa thèse. Qu'il publie en 1975, La critique du discours. Et dans la logique de Port-Royal, représentation est le terme est grosso modo synonyme du mot signe. Mais passer de signe à représentation, bien sûr, permet par exemple d'intégrer dans les signes les images et toutes les formes de symboles, quels qu'ils soient. Et c'est précisément cette pluralité qui intéresse Marin. C'est-à-dire que l'une des différences fondamentales avec les visual studies, c'est que justement Marin ne se limite pas au visuel. Il parle des représentations et que ce qui l'intéresse, c'est la relation qui peut se nouer entre un discours et une image, entre une hostie et la formule sacramentelle qui l'a définie. Et donc c'est dans le réseau de ces relations qui ne peut donc jamais être coupé. Il n'est pas question pour Marin de parler de l'image toute seule et de prendre en compte uniquement la dimension visuelle, mais beaucoup plus donc une écologie des représentations constamment décrite sous un angle pragmatique. Alors, j'ai peu de temps, donc la façon la plus claire, je pense, pour moi, qu'il a d'exprimer ces principes, c'est l'explication, l'analyse qu'il produit du système de l'Eucharistie avec la formule sacramentelle « Ceci est mon corps ». Donc, pour moi, il y a beaucoup de versions de ce travail chez Marin, en particulier dans Le Portrait du Roi, mais je trouve que la version qui est donnée dans La Parole mangée, qui est un livre un petit peu moins utilisé de 86 de Marin, et donc dans son premier article, La Parole mangée ou le corps divin saisi par les signes, on a vraiment un résumé très à la fois très précis. Suffisamment étendu, c'est-à-dire un peu moins dense que les formules souvent très ramassées de Marin qui sont qui sont difficiles parfois à comprendre. Donc, voilà, je vous lis deux, trois citations qui me semblent bien poser la question. Donc, l'énoncé hein, consécratoire, ceci est mon corps, est cet énoncé qui transforme substantiellement la nature d'une chose, le pain, le vin, sans modifier ses apparences. Donc, ce qui est évidemment très intéressant, c'est que ça se rapporte, donc, si vous voulez, l'image dans l'Eucharistie, c'est l'hostie. Et vous comprenez bien que cette image n'a aucune importance, enfin, dans sa forme. Ce qui est important, c'est l'opération qui lui est appliquée. Et cette opération, elle est produite par un énoncé, par un effet de discours. Voilà, donc, dans le fameux chapitre 4 de la première partie, qui est celui qui comporte ce passage, les logiciens de Port-Royal commencent par définir le signe à la fois comme une opération, par laquelle l'esprit, c'est-à-dire un sujet, regarde un objet quelconque, et comme le produit de cette opération. Donc, à la fois une opération et le produit de cette opération. Les exemples de signes que les logiciens privilégient pour illustrer leur définition générale sont un certain type d'icônes. C'est ainsi qu'on regarde d'ordinaire les cartes et les tableaux. Donc ce sont voilà, ces icônes qui prennent la place de ce qui est un archétype du système de la représentation. Je passe... Voilà, pour aller à la fin de l'article, le modèle eucharistique, je cite, livre bien la cohérence profonde du réseau des exemples qui illustre la théorie sémiotique de Port-Royal telle qu'elle est brossée dans la définition générale du signe comme représentation. Donc voilà, on se trouve ici devant hein, véritablement une formulation la plus ramassée possible, hein, d'une pensée dont vous comprenez bien qu'elle décrit le pouvoir des images comme non pas un effet qui se passerait uniquement du côté de la réception et qu'on analyserait par les effets de réception, mais comme la mise en réserve de la force dans les signes, ce qui a pour conséquence, ce qui a une conséquence extrêmement importante, qui est que pour Marin, le pouvoir n'existe que dans sa représentation. Je le cite, la représentation, c'est le pouvoir. Donc il n'y a pas de différence entre l'image et le pouvoir, l'image et le pouvoir, c'est la représentation qui opère la transformation de la force en puissance, puisque c'est la représentation qui met la force en signe. Et vous voyez que dans cette approche, en particulier à partir de l'exemple de l'Eucharistie, hein, comme corps sacramentel sémiotique, eh bien, d'une part, on peut dire que les pouvoirs de l'image, les pouvoirs de l'image se situent dans les récits ou dans les discours, et de manière plus peut-être plus importante encore, le pouvoir de l'image n'est pas d'ordre anthropologique, au sens où ça serait où les images produiraient des effets à une échelle qui est celle de l'espèce, donc voilà une sorte de fonction comme ça anthropologique, ce qui définirait l'approche de Friedberg. Elle n'est pas non plus un caractère qui s'explique par l'esthétique, mais le pouvoir de l'image, il est sémiotique, fondamental. C'est-à-dire qu'il est dans l'opération, dans la relation qui s'institue entre les différents éléments du réseau. Et donc on a là, à mon avis, une pensée extrêmement forte et très contemporaine. Quand on est familier aujourd'hui des outils de l'ethnométhodologie ou de la pragmatique, on voit bien la relation, la proximité d'un système de pensée que Marin a formulé bien avant ces progrès des sciences sociales, mais qui sont finalement aujourd'hui, je pense, peut-être plus opérants que les outils des études visuelles dont on peut penser dans une certaine mesure qu'ils arrivent un petit peu aujourd'hui à... ils sont un peu fatigués. Voilà. Donc, de mon point de vue de chercheur, en particulier sur les usages sociaux des images, puisque c'est ça qui intéresse Marin, une grande partie de ces analyses porte le portrait du roi, l'Eucharistie, vous voyez, ce sont des usages sociaux, ce ne sont pas en particulier... Il y a une partie dont je n'ai pas parlé finalement ici, qui est l'approche de l'art. Mais du côté des usages sociaux des images, on a en fait un ensemble d'outils extrêmement bien, extrêmement cohérent, très, très puissant, dont... en grande partie, on n'a pas encore vraiment commencé à se servir. Merci.
Merci, André.